locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, la semaine dernière, c'était le VNB Fest à Château-Gontier. Le désormais célèbre festival était de retour pour une 6e édition. Notre bénévole Pierre y était. Il a pu rencontrer Erwan Coatena, président de l'association Opus Sonore qui porte le festival. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du jeudi 27 août. Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Dimanche dernier se clôturait le VNB Fest à Château-Gontier. Depuis maintenant 6 éditions, l'événement s'est forgé une solide réputation dans la région grâce à de nombreuses têtes d'affiche. Pierre, qui était présent sur cette édition, est avec nous en studio. Bonsoir.
Oui, salut Simon.
Alors à cette occasion, tu as pu rencontrer Erwan Coatena. Il est président de l'association Opus Sonore. C'est elle qui porte le festival.
Oui, exactement. Alors, juste quelques mots pour contextualiser effectivement l'interview. Alors, pour moi, c'était la première fois. Hein. Je fréquente les festivals depuis des années, mais c'est la première fois que je venais à Château-Gontier. Donc, c'est pas loin, 35 minutes d'Angers. Donc, très surpris par le site. Hein. C'est immense. Il y a 10 hectares, 4 scènes, deux principales, une électro et l'autre métal. Un site pratiquement entièrement électrifié. C'est très bien pour l'empreinte carbone. Programmation, on en a parlé, donc c'est extrêmement éclectique, hein, de Matt Pokora, Louane à Elena, en passant par Feu Chatterton, Moby, etc. Bon esprit, bon accueil, pas de tension, bonne organisation. Les sets s'enchaînaient d'une scène à une autre pratiquement aussitôt. Surpris quand même par les enseignes de nombreux bars, pratiquement tous à l'effigie de marques d'alcool. Cela dit, oui, moi j'ai eu envie en fait de connaître un peu les coulisses en fait de l'organisation en fait de tel festival, parce que celui de Château-Gontier est sûrement un des plus gros festivals de France maintenant. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à rencontrer le président de l'association qui porte le festival. Et c'est l'interview qu'on va écouter. Et il va nous expliquer en fait toute la genèse et l'actualité en fait de ce festival qui a vu le jour il y a 6 ans.
On écoute ça tout de suite.
Bonjour, nous sommes le dimanche 23 août et je suis au festival VNB Fest de Château-Gontier en Mayenne. La 4e journée a déjà débuté et je suis en compagnie d'Erwan Coatena, président de l'association Opus Sonore qui porte ce festival. Bonjour et merci de m'accorder ces quelques minutes pour Radio Campus Angers.
Bonjour, merci à vous.
De rien. Alors tout d'abord, en quelques mots, peux-tu expliquer les interactions entre VNB et l'association ?
Aujourd'hui, je suis président de l'Opus Sonore, donc l'association qui porte le festival. Cette association a été créée en 2019, quand a germé dans la tête de Damien l'idée de monter un festival. Il était en lien à ce moment-là avec un partenaire du territoire qui s'appelle le VNB, le groupe VNB, qui l'a aidé à monter tout ça et qui est devenu un petit peu le partenaire support, donc le partenaire historique de cette édition 2019. Nous sommes à la 6e édition, donc depuis plusieurs éditions, cet accompagnement se poursuit avec un partenariat titre autour du groupe VNB, qui est une des 300 boîtes partenaires du festival. Et donc moi, je suis président de l'Opus Sonore, ce qui est l'association qui porte le financement, qui porte les investissements et qui porte ce festival en s'appuyant sur différents prestataires, différents services, différentes compétences. Et donc mon rôle là-dedans est d'accompagner ceux qui font, ceux qui savent, ceux qui ont appris à faire, ceux qui ont appris à savoir, et donc Damien et ses équipes autour de ce beau projet.
À l'origine, l'association était locale ?
Oui, c'était une association, on dit ici castro-gontérienne, donc une association du coin qui fédérait les gens qui portaient ce festival. C'est une association qui, comme on va dire beaucoup de gens le savent dans le milieu associatif, on est sur base du bénévolat. Donc moi, j'ai une autre vie, j'allais pas dire une vraie vie à côté d'une autre vie, parce que j'ai une boîte sur Château-Gontier. Et donc, sur mon temps libre, j'accompagne les équipes qui portent, qui font, qui développent depuis maintenant plusieurs belles éditions ce projet, qui est un projet qui reste un projet de territoire. Parce qu'on en parlera sans doute après. Et Damien avait en tête à l'époque en rêve cette volonté d'amener auprès des gens de Mayenne, de la région Pays de la Loire, de la musique, des groupes, de la musique différente. Donc c'est un projet qui maintenant a un peu plus d'expérience avec toutes ces éditions, et on reste sur une mission de contribuer à la vie artistique, à la vie musicale sur le territoire mayennais un peu plus large, s'insérer dans des choses existantes et contribuer à développer tout ça.
Ça a commencé en 2019, mais il y a eu 2 années d'annulées, hein, c'est ça ?
En fait, il y a eu, comme la plupart des activités, on a eu 2 années blanches qui ont permis un peu de penser ce projet, où il n'y avait plus rien à faire, et ça a redémarré en 2022, donc juste après le Covid, qui a été un épisode, on va dire, de festival en Teams ou en visioconférence. Et à cette sortie de Covid, ben les gens avaient envie de se retrouver de manière physique. Et on a pu redémarrer très très fort sur ce projet en 2022, ici, sur le site de la Maroutière, puisque c'est un site que l'on loue sur toute la période du festival. Le groupe VNB qui avait acquis ce site sur cette période-là, sortie de Covid, pour y produire le malt, l'orge, les ingrédients qui leur permettent de brasser leur bière, et de faire leur whisky. Donc on utilise une partie du site qu'on loue, que l'association Opus Sonore loue, pour y implanter ces multiples scènes, et sur l'espace de ces 4 jours, 5 jours, comme cette année. Donc ici, sur le site de la Maroutière, sortie du Covid, effectivement.
Ça a démarré en 2019 à Cran, et donc ça a été transféré avec l'achat du site en 2022, c'est ça ?
C'est ça, en fait, c'était à Cran en 2019, et déjà à Cran, là, dès la première année, on va dire, il y a eu un engouement assez fort, parce que je dirais, c'était sur 2 jours, et ça a très très bien marché, ça semblait démontrer qu'il y avait besoin de ça ici, que les gens avaient besoin de trouver quelque chose à ses portes. C'était une première année qui a été une année assez forte, assez ambitieuse, mais qui a généré des pertes. On parlera sans doute à un moment donné de cette économie des festivals qui est quelque chose de fragile. Et on a commencé avec, une grosse perte, où le groupe VNB nous a aidé en étalant la dette. On continue à rembourser.
Absorber
et rembourser. Et sans le soutien d'un partenaire de ce type, il aurait été compliqué de passer le pont du Covid. Parce que je dirais que pendant 2 ans, il n'y a plus possibilité de bouger. Ne plus bouger, c'est plus pouvoir réagir. Et pas réagir, c'est ne plus pouvoir repartir. Donc ce site a été racheté à la sortie du Covid et a permis de penser le projet autrement et de grandir. À Cran, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a une problématique de positionnement autour des courses de Cran, qui sont un des gros événements du territoire. Et on venait s'insérer là-dedans, mais on avait besoin de plus de temps, plus de place. Donc il a été opportun de changer, de revenir sur la commune d'origine, ce qui a rendu heureux la commune du Pays de Château-Gontier de retrouver ce festival et d'y associer maintenant depuis 2022 VNB Fest à Château-Gontier-sur-Mayenne.
Oui, puis alors évidemment en préparant l'interview, donc j'ai effectivement repéré quelques chiffres notamment, puis quelques têtes d'affiche, parce que vous avez démarré en 2019 là justement avec Big Flo and Oli et IAM quand même, donc oui. C'est quand même ambitieux. Puis ensuite, notamment en 2022, Orelsan, Section d'Assaut, Trio, alors donc sur le site, on parlait de 36 000 à 90 000 spectateurs. Ensuite 2023, DJ Snake, Matmata, 2024, 2025, donc l'année dernière sur 4 jours et 5 scènes, Gims, Justice ou Gazo.
Oui.
Et alors voilà, donc l'aspect financier qui m'intéresse. Donc ce que j'ai pu retenir, c'était l'année dernière un budget de 12 millions d'euros, 160 000 personnes et 2800 bénévoles.
Oui.
Il y a eu 95% de places vendues, donc j'ai bien
révisé
ma leçon.
Au travail, voilà, ça fait très campus, c'est bien.
Voilà, seuil de rentabilité atteint, impact sur la commune de 1,5 million d'euros. D'après le maire. Bon, tout ça me fait dire, avec ces chiffres, on constate que le festival a très vite poussé et évolué. Est-ce que c'était un choix de grandir vite et de vous positionner comme un des grands festivals de l'été en France ?
Je pense que établir une stratégie ou un plan stratégique, ou ce qu'on appelle, on a déjà du mal à faire des business plans dans nos boîtes, alors avoir la prétention d'en faire un sur un festival, on n'a pas cette prétention ni cette ambition. On raisonne comme souvent en Mayenne d'ailleurs, par agilité. On a des opportunités qui se présentent, on les saisit. Tout nous motive, rien ne nous fait peur. Je dirais que c'est un petit peu ça. Quand il y a possibilité de faire venir dans la prairie ici des stars internationales, des grandes stars françaises, et donner cette possibilité aux Ligériens et Mayennais de découvrir ça, on avance. Donc assez rapidement, bah, cette capacité à le faire, cet emplacement pour le faire, à générer des montées de budget inévitables, avec un objectif seul et unique, c'est l'équilibre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que président de l'association, on n'a pas vocation à rentrer du cash, on a vocation à se donner les moyens de continuer à investir pour les festivaliers. C'est-à-dire que si tu veux qu'on parle de chiffres, c'est très très simple. On fait les choses, je dirais, un petit peu à l'envers. On part d'un objectif de billets, de place pour les festivaliers. Et la jauge en découle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un prix de place, on a une programmation, on a des aménagements de site, on a des contraintes techniques, on a des coûts, on en détermine la jauge. Donc le projet du festival se situe entre cet objectif de prix et un budget total. La jauge en découle, et avec une volonté, c'est d'avoir de la place jusqu'au dernier moment maximum pour donner l'opportunité aux gens qui sont tributaires de vacances, des tributaires de météo, de venir. L'année dernière, sur la dernière semaine du festival, on a vendu 10% des places. Donc on avait 120 000 festivaliers, on a vendu 12 000 places. Cette semaine, donc on est en 2026, on va faire une jauge festivalier à pas loin de 160 000. On aura vendu, je crois que c'est 10 000 places cette semaine. Ça veut dire que jusqu'au bout, il y a des gens qui se décident, donc il faut conserver de la place. En termes de budget, la part artistique prend une part importante, effectivement. Là, d'un côté, on a des charges, de l'autre côté, donc des dépenses, de l'autre côté, on a des recettes. Mais au milieu de tout ça, on a de l'investissement. L'année dernière, on a investi énormément sur le site de la Maroutière pour décarboner. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui est groupe électrogène. On s'est relié à la ligne haute tension. Gros investissement, investissement très lourd l'année dernière. Effectivement, là, les budgets ont monté. La contribution, le chiffre qu'a donné le maire du Pays de Château-Gontier est vrai. C'est qu'aujourd'hui, si je me tourne vers l'année 2025, on a réinjecté sur le territoire 3 millions d'euros. Quand je dis le territoire, j'englobe la région Pays de la Loire, la Mayenne et le Pays de Château-Gontier. Rien que sur le Pays de Château-Gontier, c'est 1,3 million. Et que si on intègre Mayenne et région Pays de la Loire, ça fait 3 millions d'euros. C'est cet impact économique, cette contribution du projet festival sur le territoire ligérien. On en est assez fiers parce que je dirais que faut pas oublier les jeunes qui viennent ici, qui sont les enfants de nos salariés, de nos collaborateurs, des entreprises du territoire. On se doit d'investir, on se doit de réinjecter ça, de donner capacité aux gens à vivre, à venir chez nous, à partager. Donc c'est on n'est pas en économie circulaire, mais on est en plaisir partagé circulaire, quoi. C'est des investissements lourds, c'est des prises de risques importantes, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Je pense à nos confrères, hein, la canicule, les orages, le vent. Il n'y a pas que la problématique économique. On voit que tout ça s'est perturbé. On voit que tout ça, les orages sont aussi sur les comptes en banque dans beaucoup de cas. Donc faut rester prudent, rester pragmatique, mais conserver de l'ambition et de la volonté de faire les choses.
Donc ça est fragile, cette économie-là est fragile. Hein. Oui. J'ai eu l'occasion effectivement d'écouter des émissions à la radio, notamment avec des directeurs de festivals, dont certains ont été annulés, et d'autres en disant qu'ils étaient inquiets évidemment pour la suite. Alors il y a l'aspect climatique, évidemment, décarbonisation, mais il y a aussi forcément les cachets des artistes. Alors comment un festival en Mayenne, Château-Gontier, arrive en l'espace de 6 éditions à programmer des têtes d'affiches en exclusivité et équilibrer un budget sans subvention, hein, c'est bien ça, peut-être un peu la mairie éventuellement.
En fait, c'est je dirais que le...
Avec un maintien de prix des places quand même assez raisonnable.
Exactement, parce que comme je te disais, c'est qu'on le fait dans l'autre sens, en partant de la target de prix. Aujourd'hui, une programmation, c'est pas qu'un budget. Une programmation, c'est des choses amenées pour plusieurs festivaliers. La moyenne d'âge, elle est de 32 ans sur le festival. Et quand on regarde la programmation, Robbie Williams, c'est plus la génération de ma femme et moi plutôt que celle de mes filles. Elles sont plutôt au PLK. Bien sûr, ouais, Charlotte de 8 et hier soir. Moi, je suis fan, mais c'était. Donc, en gros, on a une programmation large sur plein de domaines, équilibrés, qui permet de répondre aux besoins de tout le monde. La somme de tout ça, c'est un équilibre du contenu, un équilibre budgétaire, où la somme de tout ça doit rentrer dans des enveloppes. Damien, là-dessus, est bien entouré et assez pertinent, parce qu'il sait faire venir des gens avant tout le monde, d'autres qu'on comprend sans doute, parfois après tout le monde, mais qu'on est content d'amener ici. C'est une sacrée petite popote qu'il faut mettre avec des ingrédients parfois pas simples, faire cohabiter tout ça. Mais il faut aussi de la chance.
Je pense qu'il doit savoir argumenter quand même, parce que pour faire venir, c'est la soldate, Jules, demain, soldate en France, bon, vient de Marseille, je suis pas sûr qu'il connaisse vraiment la Mayenne, il a dû avoir des arguments.
Mais l'important, qu'il connaisse la Mayenne, c'est le plus important, l'important c'est que la Mayenne le connaisse.
Oui, c'est ça aussi.
En fait, c'est ça qui est sympa, et c'est ça qui nous amène de la fierté, c'est d'avoir des artistes. Tu disais tout à l'heure, Big Flo et Oli sont déjà revenus.
Oui,
c'est-à-dire que les gens, nous, c'est pareil pour les festivaliers. Faire venir quelqu'un la première fois, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais encore plus compliqué que ça, c'est de le faire revenir.
Oui.
Aujourd'hui, quand on discute avec des artistes qui se considèrent qu'ils sont bien accueillis, que les gens sont sympas, que les bénévoles sont sympas, que la technique est sympa, que tout le monde est sympa, que les gens ont le sourire, ils constatent le plaisir qu'ils donnent à nos festivaliers, aux organisateurs, et que nous, on constate le plaisir et que tout le monde y retrouve son compte de bonheur. L'économie bonheur, elle n'a pas de limite. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que faire venir Robbie Williams, on commence jeudi par Robbie Williams, on termine lundi avec Jules. Bon, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, je pense qu'on aurait dit ça à beaucoup de Mayennais il y a un an, il y a 5 ans. Personne, là, il y aurait eu des sourires, mais pas en étant devant la scène, mais en pensant qu'on était un peu, on va dire, ventilé de l'intérieur. Mais le. Enfin, ça a de la gueule, quoi. Je suis désolé de l'expression triviale, mais je peux pas résumer ça par autre mot. Ça a de la gueule. C'est pas. C'est 365 jours par an sur un festival qui dure 5 jours, c'est 360 jours de boulot autour.
Bien sûr.
Des bons moments, des moments de stress, des moments de prise de risque, des moments de doute, des moments de certitude. Pas beaucoup de moments de certitude d'ailleurs, mais si. Une seule certitude de l'année, c'est que finalement on peut pas quand on embarque un projet comme ça se contenter de faire ce qu'on peut, faut vraiment mettre toute l'énergie à faire ce qu'il faut, mais parce qu'on n'a pas, il y a tellement d'opportunités de que tout ça se passe pas bien qu'il faut anticiper le maximum d'aléas. Il y a des choses qu'on maîtrise pas, la météo on la maîtrise pas, l'orage jeudi, oui c'était jeudi, je sais plus bien du tout.
Ouais, c'était jeudi, j'y étais.
Jeudi, l'orage il arrive droit sur nous. Je vais au PC sécurité parce qu'on tout ce travail là est fait en collaboration avec le département, avec la préfecture, avec la ville de Château-Gontier, avec la gendarmerie, la sécurité civile, les pompiers. Il y a tout ce staff, on va dire, d'instances autour de l'État qui sont pour nous un appui majeur. Je vais au PC sécurité, ils me montent une carte et ils me disent l'orage nous arrive droit dessus. Bon, tu te dis l'orage, tu penses à tes petits camarades en espérant, désolé les gars, j'espère qu'on va pas me faire je vais pas subir la même chose que vous sur des annulations. Et à un moment donné, l'orage met le clignotant sur la carte, c'est impressionnant. Je dis donc en gros, finalement l'économie du festival, c'est que faut jamais on va dire renier, mais avoir un peu de chance, ça peut aider. Et ce jeudi, on a eu un peu de chance, je pense, mais...
Oui. J'étais, il y a Fush Atherton qui a d'ailleurs joué avec ça, notamment le chanteur Arthur Teboul, puisqu'il était dans la foule, il s'est fait tremper, saucer, il était heureux comme tout. Et l'orage est passé vraiment, un peu, on l'a eu, mais à côté quand même.
Ah ouais, mais l'orage a décidé que cette année, on ne méritait pas ça.
Exactement.
On l'a vu en 2022, et moi j'ai un souvenir mythique. On s'est pris une averse de flotte, c'était Phoenix qui jouait sur scène.
Ouais.
Phoenix juste après les Jeux Olympiques où ils avaient sous la pluie d'ailleurs aussi, c'était peut-être de leur faute cette année-là d'ailleurs, mais d'ailleurs ils avaient repris un petit clin d'œil, ils avaient repris Night Call de Kavinsky. Kavinsky qui était venu chez nous jouer. Donc, voilà, je vous dirais, dans l'économie du festival, il y a toute cette partie technique, cette partie budget, mais le petit ingrédient, la petite chose en plus ou en moins, c'est la partie météo, et ça, moi, j'y peux absolument, personne n'y peut absolument rien. Mais finalement, si on regarde bien, c'est plus notre génération, qui ne se souvient pas de Woodstock sous la pluie? C'est devenu mythique. Une averse peut rendre des choses mythiques.
Évidemment.
Et après l'été qu'on a vécu, et moi, j'ai aussi une pensée pour nos petits camarades agriculteurs qui avaient besoin de pluie. Je vais pas. Bon, il y a pire que d'écouter du Fush Atherton, du Robbie Williams, du Moby Woods sous la pluie. Il y a d'autres qui en avaient besoin, donc on est prêt à les aider. Petit clin d'œil aussi aux pompiers, parce que ça a été un sacré boulot avec eux d'anticiper. Il fallait de la pluie, donc il fallait qu'on accepte de la prendre.
Ouais. Aujourd'hui, c'est un temps idéal. Si ça se maintient, c'est idéal quand même pour les festivaliers. Non ?
Si,
couvert, mais il fait pas froid, il y a pas de vent pratiquement.
Mais les gens sont tellement oui, heureux d'avoir d'avoir un peu de fraîcheur que il y a pas quelle que soit la météo, faut que le moment soit idéal. On a de la chance sur la météo. Encore une fois, c'est le seul endroit où on peut pas anticiper. On n'a pas de spécialité météo, donc. Comme on dirait que la fête continue, quoi.
Pour terminer, parce que tu as parlé effectivement d'une édition un peu pluvieuse, mais est-ce que tu as un fait marquant depuis la première édition, ou ton meilleur souvenir en fait avec un artiste en off ou sur scène, qu'est-ce qui te revient comme ça spontanément depuis le début?
Alors moi, le truc qui me revient spontanément, pardon, c'est que j'avais un deal avec Damien, parce que je suis président du festival, mais les premières 2022, je faisais un set de DJ sur une des scènes, et j'ai dit, écoute, je veux bien devenir président, mais je conserve mon set. Et quand Phoenix a pris la grosse averse sur la figure, moi j'étais aussi en train de faire un set sur une autre scène à côté, et j'avais la foule devant moi, et je voyais arriver derrière un nuage, mais il était même plus noir le nuage. Et les gars à côté de moi, ils me disaient, Erwan, faut qu'on arrête. Je dis, non, on continue. On s'est pris une averse, on tenait des bâches au-dessus des platines. J'ai pas arrêté et le public n'est pas parti. Je sais pas si tu vois en face de nous, il y a une photo à gauche là-bas avec un petit garçon qui a un poncho sur les épaules, qui reste là. Ils sont tous trempés. Si j'étais en train de jouer de la musique et tous ces gens-là sont restés, donc ça c'est mon moment plus marquant. Les gens sont restés là et quand les gens restent là, donc c'est ça. C'était un nuage, mais il pleuvait. Phoenix continuait, chantait Night Call et moi j'ai dit on n'arrête pas, on continue. Ça c'était un moment marquant.
D'accord. Et une rencontre avec artiste ou...
J'en fais pas beaucoup. Mais j'en ai eu une, parce que c'est tout récent, j'en ai eu une hier soir avec Charlotte DeWitt, parce que moi je suis vraiment fan de la queen de la techno. Et ça va répondre à une partie de tes questions tout à l'heure, parce que finalement, l'important c'est quoi? C'est que les festivaliers soient heureux et que les artistes aient envie de revenir. Et elle me disait qu'elle était impressionnée de ce qu'elle avait découvert. Elle savait pas bien, honnêtement, ce qu'elle allait découvrir en venant. Et pour reprendre ses mots, elle a halluciné. En disant, ouais, c'est super, bravo, très bon public, très bon encadrement, très bon accueil. Donc si les festivaliers sont heureux et reviennent, et que les artistes sont contents, et je lui ai dit qu'il fallait surtout pas hésiter à parler de nous à Tomorrowland ou à d'autres endroits plus mythiques, à ses petits camarades, hommes ou femmes, DJ... C'est ça, c'est de voir que les artistes reconnaissent le projet, reconnaissent tout ça, ont envie de venir. Si tous les festivals y reviennent et que les artistes reviennent, à l'édition numéro 10, s'il fait beau, ou même s'il pleut, je pense qu'on pourra se retourner deux secondes vers le passé avant de préparer l'avenir en disant, waouh, c'est pas mal quand même ce qu'on a fait.
Ouais. Moi qui fais pas mal de festivals, effectivement, il y a quand même des groupes, des artistes qui sont reconnaissants. Là, j'ai entendu, et puis à chaque fois, c'est ça. Quand ils sont bien accueillis, quand l'organisation, effectivement, est assez au top, ils le disent sur scène quand ils terminent quoi, leur set. En général, ils en parlent. Quoi. Et donc ça, c'est une reconnaissance aussi qui était importante pour le festival, les bénévoles, quand ils parlent des bénévoles,
exactement,
etc.
Exactement. De toute façon, sans bénévoles, on peut rien faire. Sans énergie, on peut rien faire.
2800 quand même. Hein, 2800, c'est énorme.
Et puis c'est... De toute façon, je dis souvent, dorénavant en Mayenne, il y a deux moments forts pour la famille, Noël et le VNB Fest.
C'est vrai.
C'est les cousinades, c'est des grosses cousinades.
Et le Stade de la Valois.
Le Stade de la Valois, c'est tous les week-ends. Mais ils ont fait un bon début d'année, parce que je crois avoir entendu dire qu'il y avait... C'est un petit clin d'œil pour mon directeur favori. Je crois qu'ils ont battu Nantes.
Ah mais oui, je confirme, je confirme. Et une dernière petite question qui est plutôt perso, puisque bon, moi je ne vais pas spécialement dans les coulisses, mais est-ce que les artistes qui se croisent sur la même journée communiquent entre eux ou restent-ils dans leur bulle?
En fait, on a un accueil du soir, parce que sur la mare routière, il y a un château qui est un petit peu l'écrin dans lequel les artistes logent, se retrouvent, toute cette partie loge, cette partie backstage, et il y a tout un espace. Bar, piscine, où les gens se retrouvent. Et le soir, ils discutent, ils se croisent, ils se rencontrent. Ils sont tous mélangés, tous au même endroit. Ce château, en fait, c'est un peu l'important pour les festivaliers, c'est les scènes. Et pour les artistes aussi, je pense en priorité, mais on souhaite qu'ils soient bien accueillis. Et ils ont une zone commune dans laquelle ils se retrouvent, ils échangent, ils discutent. C'est une cousinade de sur scène et devant de la scène, derrière, dessus, devant. Voilà. Le résumé de tout ça, on veut que ça se passe bien. dessus, devant, derrière. Voilà.
Trop bien. Eh bien, merci beaucoup.
C'est
et
moi.
Puis bonne fin de festival.
Ça va bien se passer ce soir. Moby.
Ah bah ouais, moi je viens aussi pour Moby.
Moby Polka. Voilà.
Ah ouais, quand même.
Et puis donc un tout petit mot aussi que j'allais oublier, c'est que dans tout ça, on a aussi un tremplin. Ça veut dire que le rôle de l'Opus Sonore et donc du VNB Fest, c'est aussi de permettre à des artistes émergents, des gens en début de projet, en début de parcours, de pouvoir rejoindre. Donc il y a eu toute l'année des scènes avec un nombre de candidats importants. Donc le tremplin permet d'identifier le groupe qui est choisi par un jury de professionnels, qui est accompagné pendant un an sur un programme qui s'appelle Pulsar, en espérant, et Maxi Glut a clôturé en scène 2 cette semaine, ils ont gagné le tremplin l'année dernière, a clôturé la journée. Donc c'est aussi notre job de contribuer à l'industrie musicale en offrant un espace d'expression sur ce tremplin et sur cette scène 2 pendant le festival pour préparer la suite des gens qui, on l'espère, venant du tremplin du VNB Fest, vont venir remplir les affiches, les hauts d'affiches ou toutes les affiches possibles d'autres festivals en France, pourquoi pas à l'étranger, et d'être à la mort de tout ça, quoi. Mettre une petite graine, l'arroser et les aider à grandir en espérant qu'un jour on puisse se dire... Tu parlais du stade Lavallois, se dire le petit gars qui vient de marquer le but là, il sort de notre centre de formation. Ça, pour le coup, encore plus qu'au Williams de la Prairie, ça aussi, ça aurait de la gueule.
Ouais, c'est complètement dans l'esprit de Radio Campus Angers, puisque nous, on favorise l'émergence en fait de tous les artistes et puis de tous les manifestations culturelles d'ailleurs. Eh bien, merci Erwan, bonne
merci
fin de festival et puis l'année prochaine, bien sûr.
Avec plaisir.
Merci, allez, au revoir.
Une interview d'Erwan Coatena, président de l'association Opus Sonore qui porte le VNB Fest, qui s'est donc clôturé dimanche dernier. Interview réalisée par Pierre, notre bénévole qui est présent avec nous ce soir. Et pour finir cette émission, un petit bilan de l'édition. Tu as pu assister à la conférence de presse de clôture avec quelques chiffres qui t'ont marqué.
Oui, voilà. Donc la conférence de presse était animée justement par Erwan et puis aussi par le directeur. Alors oui, il y a quelques chiffres qui m'ont marqué. Alors c'était dimanche soir, donc c'était sur 5 jours. Il y avait le lundi n'était pas encore passé, mais ils estimaient la jauge à 200 000 personnes sur les 5 jours, dont 105 000 en entrée unique pour une journée. Et donc tout le reste en passe sur plusieurs jours. Ils ont dénombré également 21 000 campeurs. Donc c'est absolument énorme. Donc voilà, alors effectivement, il y a eu pas mal de questions, mais ce qu'ils disaient, c'est que... Alors là, c'était exceptionnel sur 5 jours, puisqu'ils ont eu l'opportunité, en fait, de faire Joule, je vais y revenir. Mais bon, ils vont maintenir effectivement 4 jours, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un des plus gros festivals de France maintenant. Et donc, ils disaient quand même qu'ils ont atteint leur limite. Hein. 3000 bénévoles avec toute l'organisation. Donc, évidemment, une manifestation comme ça, ça se travaille toute l'année. 360 jours, hein, il en parle, d'ailleurs, Erwan. Donc, c'est pas rien, avec toute l'inquiétude quand même, puisqu'il y a eu des festivals qui ont été annulés là, cette année au mois de juillet, avec l'inquiétude justement qui est vraiment un imprévu qui met en péril en fait toute cette organisation. Donc voilà, alors cela dit, ils sont extrêmement motivés, évidemment, mais alors... Moi, je voudrais juste terminer. Alors, globalement, le festival s'est quand même bien passé. Il faut lire la presse, etc. Mais par contre, le point d'orgue étant le dernier jour, avec le concert de Joule, qui était un showcase XXL, donc sur le lundi, et ça a été un fiasco. Alors d'abord, il avait demandé à ce qu'il soit tout seul, en fait, qu'il partage pas la scène. Et puis il est arrivé, moi j'ai rien contre lui, mais en jet privé, beaucoup de retard. Donc le set a commencé avec 2 heures de retard. Bon, il y a eu effectivement les intempéries. Mais le problème, il est venu avec une bande son. Il y a eu des moments où il était en playback. Donc voilà, il y a eu quand même... Les places étaient très chères, par contre, au moins 90 euros. Bon, tout ça a fait qu'il a eu un gros cachet. Tout ça a fait que les gens étaient très mécontents. Il y a eu pas mal de gens qui sont partis. Ça, il l'a vu. Ça lui a pas plu non plus. Donc, ce qui a fait que ça a tendu encore plus la fin de son set. Bref, donc là, ils ont tenté. Je pense que le bilan ne va pas être très positif et ils vont rester sur les 4 jours les années prochaines. avec bon, des têtes d'affiche évidemment toujours, mais là le fait que, parce que c'était une exclusivité, hein, c'était le seul concert qu'il faisait de l'année en France, après le Stade de France et le Vélodrome. Bon, bah, je pense que voilà, ils sont. Et puis ils attendaient 55 000 personnes, il y en a eu que 35 000. Bref, cela dit, bon, c'est malheureusement le point d'orgue qui a un peu entaché la fin du festival, mais globalement, ouais, ouais, c'est un très gros festival et qui évidemment va perdurer, quoi.
Merci à toi Pierre pour ce retour. On rappelle donc que tu étais présent au VNB Fest qui s'est tenu la semaine dernière à Château-Gontier. Bonne soirée.
Salut.
Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La programmation continue sur le 103FM, alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.